Alors, on va aborder la deuxième thématique qui est consacrée. Alors, on va saluer Monsieur Goumen Drumagué, qui nous a rejoint au cours de cette matinée, donc qui est en charge de la certification au sein de France Compétences et qui va pouvoir effectivement répondre à toutes les interrogations en lien avec ces questions de certification. C'est ce que nous verrons dans un deuxième temps, lorsque nous aborderons effectivement le contenu des formations. Et d'ailleurs, ça permettra de répondre aussi en partie à la question que notre participante a posée. Nous abordons donc le contenu du passeport de prévention, qui l'alimente et comment l'alimente. Je vais donner la parole à Madame Laure d'Hérouville, ou à moi-même d'ailleurs. Effectivement. Donc on va, je pense, effectivement essayer de faire ça à 3 ou 4 voix, hein, sur ce contenu, puisqu'il s'agit naturellement de reprendre les dispositions légales sur les dispositions de l'article L41-5. Et absolument, 41-5 du Code du travail. Donc, comme on l'a rappelé tout à l'heure, on est nécessairement lié. Je pense qu'effectivement, le passeport de prévention, au-delà même du dispositif en lui-même, il faut l'intégrer dans une espèce d'économie plus globale concernant la santé et la sécurité au travail et concernant aussi la responsabilité civile et pénale de l'employeur. Alors, moi, je suis rassurée à l'idée d'entendre effectivement qu'on a tout un temps pour la déclinaison qu'on pourrait penser, qu'on pourrait imaginer de 18 à 24 mois, si j'ai bien suivi les propos qui ont été tenus par Madame d'Hérouville, puisque c'est fin 2024 où on peut avoir effectivement une visibilité assez un peu plus précise, on va dire, sur la mise en œuvre efficiente de ce passeport de prévention. Ce qui veut dire que pendant les 2 années qui vont s'écouler, au-delà des questions de responsabilité qu'on va évoquer, qui sont naturellement liées au sujet et qui nous concernent, elles ne sont pas, si j'ai bien compris, et là je parle toujours sur le contrôle de la Direction générale du travail, d'effet immédiat, autrement dit, il n'y ait pas de contrôle sanctionnateur, et encore moins, du moins je le pense, effectivement, une appréciation par nos juges du respect des dispositions compte tenu effectivement du caractère embryonnaire des mesures qui sont progressivement mises en œuvre, et on le sait, on l'a compris pourquoi, parce que d'abord elle appelle l'intervention de plusieurs acteurs, et puis d'autre part, effectivement, elle est un dispositif nouveau qu'on doit tous comprendre et mettre en œuvre de façon efficace. Toujours est-il que notre passeport de prévention est visé aux dispositions de l'article L4141-5, donc pleinement dans le livre 4 du Code du travail et naturellement en lien avec les dispositions concernant l'obligation générale de sécurité qui pèse sur l'employeur. Il faut l'inscrire dans cette démarche parce qu'en réalité, finalement, ce passeport ne se fait l'écho que de tout ce qui existe déjà et que tout ce qui est effectivement appliqué déjà en matière de prévention, ce qui est censé l'être naturellement, depuis une vingtaine d'années maintenant et plus précisément depuis les dispositions concernant, depuis les principes légaux, jurisprudentiels d'abord et puis légaux ensuite, sur l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. Alors, qui l'alimente de ce passeport de prévention, qui le pilote, qui le met en œuvre de façon opérationnelle. Bon, on l'a dit, on a une pluralité d'acteurs dans cet écosystème avec lesquels il va falloir naturellement nouer des liens, des partenariats, en tout cas de la communication pour rendre ce dispositif efficace. Et vous savez que le contenu de ce passeport de prévention doit et censé contenir tout d'abord des attestations, des certificats ou des diplômes qui sont obtenus par le travailleur dans le cadre des formations qu'il est susceptible de suivre. La question est de savoir qu'est-ce qu'une attestation, vous le savez, qu'est-ce qu'un certificat, on peut toujours imaginer qu'on en connaît la réponse, et puis qu'est-ce qu'un diplôme, là aussi on est supposé avoir une réponse de principe. Pourquoi est-il nécessaire de le repréciser? Il est nécessaire de le repréciser compte tenu naturellement des enjeux liés à la responsabilité qui vont en découler par la suite. Je n'invente rien lorsque je dis que nos juges, qu'ils soient civils ou qu'ils soient pénaux, se sont déjà prononcés sur la qualité d'une formation, notamment à la suite d'un accident du travail ou à la suite d'une maladie professionnelle. Et donc, lorsque ces juges font un check-up de l'ensemble des dispositifs de prévention qui ont été mis en œuvre, le premier examen qui est effectué est un examen sur la qualité de la formation, de l'information, de la sensibilisation qui a été reçue par le collaborateur dont on pourrait penser qu'il est la victime, donc on va l'appeler la victime au sens juridique du terme, hein, c'est-à-dire victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'un dommage en lien avec le non-respect des dispositions en matière d'hygiène, sécurité et des conditions de travail, et que donc l'employeur, lui, va devoir justifier l'importance et la réalité de ce qu'il a pu envisager comme dynamique de prévention, et notamment à travers la sensibilisation, la formation de son acteur, c'est-à-dire du salarié, du travailleur en question. Et lorsque les juges examinent cette formation, qui est effectivement ensuite, qui va faire l'objet des débats judiciaires et peut-être exonérer l'employeur de sa responsabilité ou, le cas échéant, l'incriminer et le mettre en accusation, la qualité de la formation va naturellement faire débat. D'une part, parce que entre ce qu'on considère comme étant valable, viable, eh bien, il y a toute une marge d'appréciation. Une formation, aujourd'hui on voit des formations d'e-learning qui durent une heure et demie, deux heures, trois heures, sur des questions qui sont cruciales en matière de santé et de sécurité. Vous imaginez bien que lorsque une telle situation se présente devant un juge, eh bien ce dernier puisse en examiner la pertinence, et c'est logique. La pertinence va d'ailleurs traduire éventuellement la connaissance par le salarié de la règle de sécurité qu'il a respectée ou qu'il n'a pas respectée et les conséquences de l'accident qui s'en induisent. Donc, au-delà même de l'alimentation formelle, formaliste, réglementaire de ce passeport de prévention avec ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire les dispositifs normatifs, attestations, diplômes, etc., faut-il effectivement que vous puissiez faire un premier examen de ce que vous êtes susceptible d'y mettre ? Notamment, et de ce que le salarié est susceptible effectivement de suivre, est-ce qualité d'attestation, formation, certification, diplôme. À ceci, j'ajoute naturellement que les organismes de formation aussi jouent un rôle important, puisqu'ils sont censés, à un moment ou à un autre, renseigner dans les mêmes modalités le même passeport de formation. D'accord ? Donc, ils doivent transmettre l'information qui a été recueillie et que le salarié éventuellement a suivi ou que le collaborateur a éventuellement transmis. Important, là aussi on l'a rappelé tout à l'heure, la question cruciale du consentement du salarié à transmettre ces informations. Il faut pour l'heure que vous puissiez, compte tenu des règlements RGPD, du règlement RGPD et donc des dispositions RGPD applicables, avoir un élément de traçabilité qui permet de retracer le consentement éclairé du salarié, du travailleur, à vous transmettre les informations concernant les formations en matière de sécurité qu'il a naturellement suivies. Le texte ajoute en outre que, au-delà de l'employeur, du salarié, il y a également les organismes de formation, on vient de le dire, mais également les demandeurs d'emploi qui sont susceptibles eux aussi de transmettre les informations concernant les formations qu'ils ont suivies, éventuellement en matière de santé et de sécurité au travail. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose, un point particulier là-dessus.
Alors, peut-être en complément, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, nous considérons que les assujettis à une obligation ne peuvent pas répondre à cette obligation dès lors qu'ils n'ont pas les outils pour le faire. Donc, vous l'avez bien compris, vous l'avez dit, avant janvier 2024, il ne sera pas demandé à un employeur de renseigner le passeport de prévention. Pour ce qui est de la question ensuite de savoir quand est-ce que s'effectueront les contrôles ou les sanctions afférentes, évidemment, il y a avec toute mise en place d'un dispositif une période de latence. La réalité, c'est que, quand même, et je tiens à le rappeler, dès lors qu'une obligation entre en vigueur, ceux qui y sont assujettis doivent s'y conformer. Donc on considérera que dès janvier 2024, les différents assujettis doivent renseigner le passeport dès lors qu'ils ont les moyens de le faire. La question derrière, qui est une question d'importance pour les employeurs, est la question de la fréquence du renseignement du passeport de prévention. Et nous y sommes très attentifs. C'est encore une question qui est en cours d'instruction, mais on fera en sorte que ce renseignement soit constaté à l'issue d'une période, par exemple annuelle ou par exemple qui permettent de, à la fois d'avoir un repère simple pour tout à chacun et néanmoins qui fixe clairement une contrainte claire. Ensuite, sur la question de l'organisme de formation, effectivement, et c'est dans le décret de décembre dernier, il y a le souci d'éviter en toutes circonstances une double saisine de la part de l'employeur et de l'organisme de formation. L'idée n'est pas de demander à l'employeur de renseigner le passeport de prévention si, contractuellement, il a confié la mission de dispenser la formation à un organisme de formation. Et nous sommes aussi très attentifs dans le déploiement de ce dispositif à faire en sorte qu'il y ait un système qui permette à l'employeur de bien être au courant que l'organisme de formation a renseigné le passeport pour les formations que le dit employeur lui a confiées. Ce qui nous permet donc d'éviter cette double saisine.
Très bien, merci. Merci de le préciser parce que effectivement, on risque d'avoir quelques éléments de confusion sur ce sujet en question. Alors, on rappelait tout à l'heure l'écosystème plus global de ce passeport de prévention et de la dynamique dans laquelle il s'inscrit. Alors, vous l'avez là aussi compris, il y a un lien étroit, et vous l'avez rappelé, monsieur Galvez, tout à l'heure, avec le passeport formation, compétences, d'ailleurs, qui vont fusionner à cette occasion, si naturellement les circonstances le justifient. Est-ce que vous voulez peut-être ajouter un point à ce sujet ou pas du tout ?
Oui, en effet, le passeport de compétences est bien. Enfin, les deux passeports, le passeport de compétences et le passeport de prévention sont articulés, peut-être plus que fusionnés. Mais en effet, la loi prévoit que dès lors qu'un titulaire aura un passeport de compétences, son passeport de prévention, s'il est activé par ce titulaire, il sera directement intégré. En fait, voilà, comme on l'expliquait peut-être rapidement tout à l'heure, les deux passeports sont intégrés dans le même système d'information du compte personnel de formation. Donc, peut-être pour revenir aussi sur ce point, le passeport de compétences, c'est un outil qui permet à son titulaire de publier ses acquis sous la forme d'un CV infalsifiable et donc qui inclut d'éléments probants qui sont garantis par la Caisse des dépôts qui là aussi est qui s'occupe des développements du passeport de compétences. Et donc ces deux passeports poursuivent un objectif de traçabilité mais sur des champs différents. D'un côté, pour le passeport de compétences, il s'agit de valoriser les compétences professionnelles de manière générale, tandis que le passeport de prévention a pour objectif de valoriser les compétences en matière de santé-sécurité au travail et donc de prévenir les risques professionnels.
Très bien. Effectivement, de rappeler effectivement cette distinction qui est quand même essentielle pour ne pas générer de confusion. Nous avons, et je le rappelle peut-être un peu trop souvent d'ailleurs, que ce passeport de prévention s'inscrit dans le livre 4, tandis que le passeport formation et compétences s'inscrit dans le livre 6 pardon, du Code du travail concernant la formation, la compétence et les outils GPEC. Ça veut dire énormément de choses hein, en droit, puisque là aussi, je le rappelle, les dispositions qui s'applique entre dans le cadre du livre 4 et dans le cadre de l'obligation générale de formation de l'employeur. Il est vrai que le passeport de prévention, même si c'est une nouveauté en termes d'outils de mise en œuvre, il n'en demeure pas moins que l'obligation de formation, elle, est très ancienne, vous le savez. D'une part, elle est inscrite dans le Code du travail au sein des dispositions de l'article 41-21-2. C'est l'obligation générale de formation, laquelle, je l'ai expliqué tout à l'heure, et sans arrêt rappelée par nos juges. Elle les rappelait d'autant que les employeurs sont souvent sévèrement, je dois le dire, sanctionnés, notamment dans les contentieux en matière de faute inexcusable de l'employeur, dès lors que bien le juge se rend compte qu'au mépris du document unique d'évaluation des risques et qu'au mépris des règles en matière de formation, eh bien, un salarié victime a subi un grave accident du travail ou un accident du travail, alors même que ce dernier n'a pas ou n'aurait pas bénéficié de la formation ad hoc ou a bénéficié d'une formation, on va dire, relativement légère. Donc, on rappelle bien, nonobstant le calendrier de mise en œuvre de ce passeport de prévention, qu'à tout le moins, les règles générales du livre 4 et donc de l'obligation générale de sécurité, elles continuent à s'appliquer, quel que soit effectivement le calendrier qu'on a pu prévoir en la matière, et qu'à ce titre, hein, l'employeur n'est pas dispensé de l'obligation générale de formation, d'abord d'information, de sensibilisation et de formation telle qu'elle est prévue par l'article 41-21, donc une disposition qui s'inscrit effectivement depuis les années 90, hein, très clairement, depuis une directive cadre du 12 juin 89, qui ensuite a été transposée dans le Code du travail le 31 décembre 1991. Ce qui veut dire qu'en fait, on parle de ça, ça date de 1991 et non pas de 2021, comme on pourrait à tort le penser.
C'est un élément très important, ce que vous venez de rappeler. Qu'on soit bien d'accord, la loi du 2 août ne crée comme nouvelle obligation que le fait de renseigner le passeport de prévention. Mais cette obligation pour l'employeur ne se substitue pas et en aucun cas à l'obligation générale de formation et d'information des travailleurs qui est posée par la quatrième partie du Code du travail depuis un moment, oui. comme vous l'avez rappelé. Et donc, il faut bien comprendre l'articulation de ces régimes de responsabilité, puisqu'en réalité, le fait de renseigner le passeport de prévention ne dispense pas du fait de se conformer à cette obligation générale de formation et inversement.
Absolument. Et j'irais même jusqu'à dire qu'au final, le fait de mettre en place ce passeport de prévention est même vertueux en termes de dynamique et de prévention et de responsabilité pour l'employeur, parce que règle générale, dans le cadre des contentieux qui se présentent en justice, que ce soit des contentieux civils ou des contentieux pénaux, la plupart du temps, la difficulté est une difficulté probatoire. On n'a pas la preuve. On a bien animé une formation il y a quelques années, on n'a pas assuré de traçabilité, on n'a pas suivi ça avec un organisme compétent qui est susceptible effectivement d'avoir des éléments formels qui permettent de l'établir. Donc on se retrouve face à une situation où on indique qu'en réalité, notre collaborateur a 5, 10, 15 ans d'expérience et que par ailleurs, il a suivi une formation dans tel ou tel cadre. Et donc, le défaut de traçabilité, le déficit de traçabilité de ce type de formation va naturellement et mécaniquement mettre en œuvre la responsabilité civile et ou pénale de l'employeur, lequel sera bien en peine de justifier effectivement la qualité de la formation, en tout cas le suivi de cette formation. Ce qui veut dire concrètement que l'outil passeport de prévention, il faut le lire et le décrypter comme ça. C'est-à-dire qu'on a une espèce de boîte de coffre-fort de formation qui permet de tracer en temps réel toutes les formations qui ont été suivies. Formations dont on va imaginer naturellement qu'elles sont valides et viables en termes de contenu et qui pourra naturellement permettre à l'employeur, en cas de situation contentieuse, eh bien, d'expliquer tout simplement que les obligations réglementaires ont été suivies et que le salarié en question a pu, effectivement, au mépris d'une règle de sécurité, malgré le fait qu'il ait été dûment formé à cet effet, eh bien, n'ait pas été respecté par un choix qu'on peut considérer comme étant un peu personnel. Alors, je ne vais pas revenir sur les rudiments de la faute inexcusable de l'employeur et de la faute inexcusable du salarié. C'est pas le sujet, c'est pas l'enjeu et c'est pas le but. Mais néanmoins, effectivement, on s'aperçoit que dans les situations contentieuses, un des éléments qui fait cruellement défaut dans ce type de situation, c'est effectivement le déficit de formation. Et j'ajoute en outre que la Cour de cassation, elle, n'a pas faibli sur cette obligation, quel que soit d'ailleurs le contexte, puisqu'elle rappelle de façon extrêmement régulière la densité de cette obligation de formation. Pour mémoire, le premier arrêt qui a consacré cette obligation de formation, alors même que les textes ne le disaient pas de façon suffisamment claire et limpide, c'est une décision du 25 février 1992. Depuis lors, on a mis toute une série dans le support de décisions de jurisprudence qui viennent confirmer sans embâge cette obligation de formation, cette nécessité de formation, puisque elle est obligation, elle est nécessité aussi.
Oui. Il y a un élément sur lequel nous souhaitons attirer votre attention collectivement, c'est sur les modalités d'enseignement du passeport de prévention. Nous sommes sur un système qui est essentiellement déclaratif, que ce soit d'ailleurs au titre d'obligation pour l'employeur ou l'organisme de formation, ou encore en possibilité le travailleur. Les seules formations pour lesquelles il y a un niveau de garantie de données qui est assuré par la Caisse des dépôts et consignations seront ces formations dispensées en lien avec des certifications professionnelles enregistrée et dûment reconnue par France Compétences, mais on abordera le point plus tard puisque M. Doumbaguet est là. Néanmoins, j'attire quand même votre attention sur ce point parce que cela veut dire que pour les formations qui n'ont pas été renseignées par l'employeur, le fait qu'elles apparaissent sur le passeport de prévention et dès lors qu'il ne s'agit pas de certification professionnelle reconnue par France Compétences, l'employeur actuel devra bien s'assurer de la véracité et de des documents de valeur probante des formations qui auraient été déclarées par un précédent employeur. Ce que je veux bien dire par là, c'est que ça ne dispense pas du tout l'employeur, j'insiste bien là-dessus, de l'obligation générale de formation et d'information de ces travailleurs actuels.
C'est fondamental ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on peut repréciser un peu l'articulation entre le précédent et le nouvel employeur sur la démarche de vérification ?
L'employeur a, on va l'appeler l'employeur précédent, a, comme tout employeur, l'obligation de renseigner de manière honnête et sincère le passeport de prévention pour les formations SST qu'il a dispensées à ses travailleurs ou qu'il a fait dispenser à ses travailleurs. Ces formations sont tracées dans le passeport de prévention, mais ce ne sont que des déclarations du précédent employeur. Donc l'employeur actuel, s'il estime que le fait que ces formations aient été dispensées par un précédent employeur est de nature à le dispenser de reformer à nouveau ses salariés sur les mêmes sujets, j'attire l'attention sur le fait qu'il devra être particulièrement vigilant de contrôler la véracité des déclarations qui sont portées dans ce passeport de prévention, puisqu'on est sur un système déclaratif et qu'il n'y aura donc pas de contrôle des déclarations effectuées tant par l'employeur que par l'organisme de formation ou le travailleur.
Très bien. Donc, on ne peut pas présumer que l'employeur aurait pu légitimement bénéficier d'une formation sur tel ou tel risque, quand bien même cette dernière est inscrite dans le passeport de prévention. Si le salarié change d'employeur, il appartient à ce nouvel employeur de s'assurer effectivement de la qualité de la formation qu'il a reçue et de savoir si le salarié est capable effectivement d'assumer les obligations qui sont liées au poste pour lequel il a été recruté. Mais merci, Monsieur Galvez, d'avoir apporté cette précision, parce que souvent, c'est une difficulté en matière judiciaire où, règle générale, et notamment sur des activités, on va dire, relativement accidentogènes, on part du postulat selon lequel le salarié est présumé être formé sur son poste parce qu'il vient de telle ou telle entreprise et qu'on présume, à travers l'expérience et à travers effectivement le CV ou le diplôme qu'il a pu avoir, qu'il est habilité, formé à effectuer la tâche de travail pour laquelle il a été recruté. Ça, effectivement, c'est une présomption simple. Ceci étant, si un accident devait survenir, vous comprenez bien que cette présomption simple peut être renversée par une preuve contraire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, en cas d'accident, il est possible ensuite pour ce salarié, s'il naturellement il entend effectuer une contestation ou une mise en cause de son employeur ou de son entreprise, de démontrer qu'il n'avait pas les capacités, les habilitations, la formation nécessaire pour répondre à l'obligation de travail telle qu'elle lui avait été assignée. C'est une réalité judiciaire. Donc, et là, c'est ce qu'on disait justement sur la qualité de la formation. J'ajoute en outre que la Cour de cassation a récemment rappelé, il me semble que c'est un arrêt du 8 juillet 2020, Chambre sociale, et qui disait qu'en réalité, la formation, ce n'est pas une formation qui a été dispensée il y a quelques années sans que l'employeur n'effectue aucun contrôle sur notamment la validité et ensuite l'évolution du poste, mais c'est une formation adaptée en fonction et de l'opération de travail et de l'évolution du poste. Vous voyez ? C'est là où d'ailleurs on peut mettre en cause l'employeur ou l'entreprise, c'est qu'en réalité, en temps réel où l'accident survient et en temps voulu lorsque la formation a eu lieu, il peut y avoir un gap, notamment sur la modification du travail, de l'organisation ou même de l'opération de travail en elle-même, qui aurait pu nécessiter une formation, cette fois-ci aussi, du salarié sur l'évolution du poste ou l'évolution de la tâche, où on peut tout imaginer à ce moment-là. Donc les problématiques de responsabilité, c'est dans ces détails où elles sont susceptibles de se nicher, dans la mesure où c'est l'employeur qui sera en difficulté de devoir se justifier sur le bien fondé ou la pertinence de la formation qu'il a donnée aux salariés.
Alors, pour éviter, enfin, pour rassurer quand même notre auditoire, effectivement, on est sur un système dont l'économie générale est déclarative. Néanmoins, nous mettons en place un référentiel d'accompagnement en lien avec les partenaires sociaux pour s'assurer que les différents utilisateurs sont les plus guidés dans le renseignement du passeport. Il nous semble que c'est absolument crucial si on veut s'assurer de la qualité du contenu du passeport de prévention, d'une part. D'autre part, je rappelle qu'il y a donc une obligation pour les organismes de formation et pour les employeurs de renseigner correctement. Il ne s'agit pas seulement de renseigner, il s'agit de le renseigner correctement, ce passeport de prévention. Et puis enfin, pour les travailleurs, le régime de droit commun en cas de fausse déclaration s'applique. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas de vicier le contenu du passeport, pour X raisons, en renseignant de fausses informations.
Tout à fait, effectivement. Donc là, les précautions, effectivement, sont nécessaires en ce sens. Donc on a bien compris qu'au-delà même de l'aspect déclaratif, et auquel vous êtes naturellement assigné, compte tenu de l'obligation réglementaire, il y a quand même un examen pertinent que vous devez faire, non pas cette fois-ci au regard du dispositif en lui-même, dont vous avez parfaitement compris qu'en réalité, il était une boîte d'enregistrement, d'une certaine manière, de toutes les formations sécurité suivies par le salarié, mais que néanmoins, dans le cadre de votre responsabilité générale, il vous appartient, compte tenu de la nature des postes et compte tenu de l'activité que vous êtes susceptible d'avoir, de vérifier l'adéquation de la formation de l'opérateur, du collaborateur, du travailleur, au poste, effectivement, auquel il est affecté. Ça, effectivement, c'est une règle de base qui va permettre éventuellement de justifier ou pas, de mettre en cause ou de mettre hors de cause l'entreprise ou l'employeur dans le cadre des contentieux en lien avec la méconnaissance des règles en matière de santé et de sécurité qui auraient pu générer un dommage physique, psychique, corporel pour le salarié. À cet égard, c'est une question que je me pose, mais là je parle là aussi sous votre contrôle, j'aurais aimé savoir si oui ou non on allait peut-être faire entrer dans le champ d'application matériel des dispositions, le contenu des formations en lien avec la santé psychique au travail. Est-ce que, oui ou non, c'est d'actualité ou pas encore ?
Alors, le champ d'application de la loi est extrêmement vaste. Donc, aujourd'hui, une formation en santé et sécurité au travail, dès lors qu'elle aboutit à la délivrance d'un document à valeur probante, est éligible au passeport de prévention. Donc, si une personne a suivi une formation SST en lien avec les risques psychosociaux qui est sanctionnée par un document à valeur probante, cette formation a tout à fait vocation à intégrer le passeport de prévention.
Très bien. Donc, alors, c'est vrai que pour le moment, les textes ont précisé qu'ils concernaient des formations qui étaient déjà précisé par le Code du travail, c'est-à-dire l'amiante, les travaux hyperbares, les travaux en hauteur. Vous savez, cette fameuse liste, si j'ai bonne mémoire, des 21 travaux qui ont été identifiés comme étant dangereux et qui exigent d'abord une sécurité maximale par l'employeur, mais aussi et surtout une obligation de formation associée. On est sur des risques dangereux au sens du Code du travail, donc qui va exiger des protocoles tout à fait particuliers. Donc on peut imaginer qu'effectivement ces formations concernent ces risques-là, parce que c'est déjà le cas, et depuis 1991, hein, 30 mars 1991, si j'ai bonne mémoire là aussi, et puis et qui a d'ailleurs été complété par un autre arrêté d'octobre, 91 toujours, de la même année, et donc qui liste effectivement l'intégralité des travaux dangereux. Ça n'exclut pas, pour l'employeur, comme vient de le dire M. Galvez, d'y intégrer des formations en lien avec la santé psychique et notamment la question de la qualité de vie au travail et des risques psychosociaux. C'est d'autant plus vrai et d'autant plus utile de le faire compte tenu des derniers accords nationaux interprofessionnels qui ont été adoptés. Je pense effectivement à l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 sur le télétravail et celui qui a donné naissance à la loi santé donc du 10 décembre 2020. Et ces deux ANI mettent en évidence, tout comme la loi de 2021 d'ailleurs, la nécessité de former les managers sur les questions de santé psychique et d'encadrement au travail, et que donc déjà, je vous le dis parce qu'en justice, dans le cadre des contentieux judiciaires Concernant la problématique de la qualité de vie au travail, des risques psychosociaux, quand je parle des contentieux judiciaires, il s'agit aussi bien des affaires de harcèlement moral devant le Conseil de Prud'homme, il s'agit également des affaires concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles en lien avec les psychopathologies, les syndromes dépressifs réactionnels, les dépressions nerveuses, etc., etc. Vous savez que dans ces contentieux, qu'ils soient civils ou pénaux, sont abordées les questions de formation des personnes qui ont eu à encadrer telle ou telle personne, laquelle effectivement s'indique comme étant victime d'une psychopathologie ou qui dénonce des maltraitances managériales. Donc la question de la formation devient cruciale. Et là, je fais une petite parenthèse, il suffit de vous reporter à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 septembre 2022, l'arrêt France Télécom. Vous allez voir qu'il y a un arrêt qui fait quand même 361 pages et dans lequel il y a toute une partie sur la formation des cadres et des managers sur les questions qui sont relatives à la santé psychique et à l'organisation du travail. On pourrait penser aussi que les risques psychosociaux, c'est une toute nouveauté depuis une vingtaine d'années maintenant, sauf que rien n'est moins certain. Il vous suffit là encore de vous reporter aux dispositions générales de l'article 41-21-1, donc l'obligation générale de prévention, plus la directive cadre du 12 juin 89, pour voir finalement, dans son alinéa 7, si j'ai bonne mémoire, qu'il faut planifier les facteurs ambiants du travail et les relations sociales. Autrement dit, le Code du travail lui-même, dans la naissance de cette obligation de prévention en 1991, intégrait déjà la question de l'organisation de travail, des risques psycho-organisationnels ou, comme on peut appeler, les risques biopsychosociaux en fonction de l'altération de l'état de santé. Donc, je souligne, et c'est très important de le dire, qu'il est possible dès maintenant que vous puissiez alimenter le passeport de prévention avec les formations qui sont suivies par les personnes, les managers, sur les questions qui sont relatives au RPS. Et on sait qu'elles sont très, très nombreuses, compte tenu, effectivement, de l'actualité du risque et de son caractère particulièrement accidentogène aujourd'hui, hein, sur la liste des risques, de, on va dire même, de santé publique ou des risques maladie. Le premier risque qui a été dénoncé par l'assurance maladie, par la CNAM, c'est les troubles musculo-squelettiques. Et juste ensuite, vous avez les risques psychosociaux. Et juste après, vous avez les cancers professionnels. Vous voyez ? Donc, autrement dit, on est vraiment sur une problématique plus que de santé au travail, de santé publique, compte tenu en plus de l'impact que ça peut avoir. On l'a vu avec la Covid et les effets qui ont été dénoncés sur les baromètres et toutes les informations, sondages qui ont mis en évidence l'altération de l'état de santé psychique des salariés qui avaient été isolés pendant cette Covid et qui avaient télétravaillé aussi pendant cette Covid. Donc, je ferme la parenthèse. On a compris, d'une part, que ce passeport de prévention était alimenté, dans un premier temps, par les risques qu'on peut considérer comme dangereux et que le Code du travail qualifie de dangereux, au sens des textes, hein. Liste des travaux dangereux, c'est indiqué comme tel. Et ensuite, les CMR, évidemment, les cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, cela va sans dire, ils font partie d'ailleurs de cette liste. Et dans une deuxième partie, on va dire les risques psycho-organisationnels pour lesquels vos collaborateurs ont reçu une formation et qui vont effectivement permettre ensuite d'alimenter ce passeport de prévention et toujours dans le contexte et dans la logique de responsabilité de pouvoir éventuellement mettre hors de cause, j'aime pas dire exonérer, mais mettre hors de cause une entreprise ou une personne dès lors qu'elle a reçu la dite formation et que malgré au mépris de cette formation, eh bien, s'en est suivi le dommage corporel ou psychique et ou psychique. Voilà. Le texte précise effectivement, en outre, concernant toujours cette formation, eh bien, que... rien d'autre qu'on puisse dire sur cette question-là, sauf si vous voulez intervenir. Hein. Je suis très bavarde, moi, donc n'hésitez pas à m'interrompre.
Peut-être pour faire une transition à M. Droumaguet. Oui. Effectivement, donc, il y a une alimentation qui est progressive du passeport de prévention, selon le principe que vous venez d'évoquer, en visant d'abord, effectivement, les formations obligatoires, s'agissant des risques les plus dangereux. Mais aussi pour une raison technique qui est l'intégration du passeport de prévention au passeport de compétences et donc au système d'information du compte personnel de formation qui fait qu'aujourd'hui, à l'échéance de mai 2023, ne pourront être visualisées que les formations qui font l'objet d'une certification professionnelle. Alors là, on a une difficulté sémantique et je regarde France Compétences puisque la quatrième partie parle de formation en santé et sécurité au travail et la sixième partie, donc, qui inscrit vraiment les dispositions qui cadrent l'action de France Compétences et de manière générale de la formation professionnelle, depuis la loi de 2018, parle de certification professionnelle et de compétences, bloc de compétences. Donc, pour faire simple, on a la chance actuellement, même si ça ne se superpose pas tout à fait, d'avoir des formations en santé, sécurité au travail pour les risques les plus dangereux, selon la quatrième partie, qui sont considérées comme des certifications professionnelles dès lors qu'elles respectent les critères d'enregistrement de France Compétences. Et donc, pour un certain nombre d'entre elles, de ces formations SST pour les risques les plus dangereux, en fait, dont le contenu est clairement réglementé, eh bien, elles apparaîtront automatiquement via le système d'information du compte personnel de formation dans le passeport de prévention à l'échéance de mai 2023, puisqu'elles sont considérées comme des certifications professionnelles par France Compétences. Dans un second temps, donc ce sera plutôt probablement en janvier 2024, il y aura la possibilité d'incrémenter d'autres types de formations qui ne feront pas l'objet d'un versement automatique de données du compte personnel de formation, tout simplement par la capacité de tout à chacun de déclarer la formation, que l'on soit un employeur ou un organisme de formation. Mais pour ces certifications professionnelles, là où il y a un intérêt certain, c'est que comme elles sont versées automatiquement via le système du SICPF, donc du système d'information du compte personnel de formation, ce sont des données qui proviennent des organismes certificateurs, qui se transitent par la Caisse des dépôts avec l'imprimatur, si je peux me permettre l'expression, de France Compétences, et donc pour lesquelles nous aurons le plus haut niveau de qualité de données, de fiabilité de la donnée. Mais je vais laisser M. Dourmaguet qui en parlera beaucoup mieux que moi.
Avant de vous passer la parole, on a une question, c'est qu'en est-il des formations qui ont été suivies par les travailleurs avant la mise en œuvre effective du passeport de prévention? Peut-on, oui ou non, les intégrer dans le cadre de ce passeport?
Alors, tu veux répondre?
Oui. Pour ces formations, en effet, il n'y a pas d'obligation de les renseigner. On respecte le principe de non-rétroactivité de la loi. Mm-hmm. Ce seront seulement les formations qui auraient été dispensées à partir de l'entrée en vigueur, enfin à partir de la mise en place effective du passeport, qui pourront y être renseignées. Mais les employeurs, les titulaires auront tout à fait la possibilité de renseigner ces formations antérieures s'ils le souhaitent.
Merci infiniment. Donc, oui ou non, selon effectivement leur volonté ou pas d'inscrire, étant entendu que, quoi qu'il arrive, il y a le principe de non-rétroactivité effectivement qui s'impose à l'employeur, et c'est logique dans le cadre de la sécurité juridique.